l'idée, c'était juste de lancer quelques pistes hein, ce matin. Donc, pour moi, en tout cas, d'ouvrir cette matinée sur les questions de production et de diffusion de la littérature scientifique en un temps relativement bref, hein, donc une demi-heure. C'était juste l'idée de poser quelques bases et de, je dirais, de poser quelques... Enfin, d'ouvrir sur quelques questionnements qui vont parcourir cette journée de toutes les façons. Je me suis appuyée pour cette présentation sur un document qui vient de sortir, dont j'ai mis la référence sur la dernière diapositive de cette présentation, qui est un rapport qui a été fait par des chercheurs en sciences de l'information qui ont, je dirais, pignon sur rue, qui sont connus dans leur domaine, dans leur champ d'expertise, qui a été donc publié, ce rapport a été publié, publié par le groupement français de l'industrie de l'information, le GFII. Pour le TGE de Nice, donc il est sorti il y a une quinzaine de jours, hein, donc ça tombait très très bien, qui fait un petit peu le bilan sur l'édition en sciences humaines et sociales. C'est un rapport assez court qui à mon sens pose bien les questions et sur lequel donc je vais m'appuyer. Donc, littérature blanche, littérature grise, je voulais commencer par cette opposition-là, parce que c'est une opposition un petit peu traditionnelle, dont peut-être vous avez connaissance déjà. Ce sont des standards, hein, donc il y a effectivement des définitions AFNOR sur... ce qu'il faut entendre par littérature blanche et littérature grise. Alors, pour simplifier, la littérature blanche, ce sont, les revues, les livres, les références bibliographiques qui sont stockées dans des banques de données bibliographiques. C'est celle qui est accessible, qui est commercialisée et qui est largement diffusée. Disons que je pose les définitions telles qu'elles existent basées sur l'imprimé. On va voir qu'effectivement avec le numérique, ces définitions sont un peu mises à mal. Hein. Donc la littérature grise, ce qu'il faut entendre par littérature grise, c'est une littérature qui n'est pas commercialisée, qui n'est pas spécialement recensée, hein, pour laquelle il n'y a pas de dépôt légal, et qui est diffusée de manière restreinte, donc essentiellement sur les lieux où cette littérature est produite, donc de type rapport, thèse, prépublication, acte de congrès. Bon. J'ai repris ici la définition AFNOR de la littérature grise, qui, comme vous le signalez, est effectivement basée sur l'imprimé. Hein. Tout document dactylographié et imprimé produit à l'intention d'un public restreint, en dehors des circuits commerciaux de l'édition et de la diffusion, et en marge des dispositifs de contrôle bibliographique. Bon. Ce schéma... oui, parce que ça n'est pas effectivement... à part les thèses qui sont, qui font l'objet d'une publication, réellement, donc et qui sont commercialisées, les thèses et les mémoires font partie de la littérature grise, même s'il y a une diffusion par ailleurs. Les microfiches, il est clair que, comme je l'ai mis ici, on diffuse sur les lieux de production, c'est-à-dire qu'on diffuse à l'intérieur de l'université. Donc effectivement, c'est peu satisfaisant déjà sur la base de l'imprimé, parce qu'il y a certains documents dont on n'arrive pas très bien à savoir si c'est de la littérature grise ou de la littérature blanche. Je pensais notamment, c'est l'exemple que j'ai mis là, à des éditeurs publics qui ont des circuits de diffusion qui sont pas forcément très larges. Il y a des circuits commerciaux, il y a un dépôt légal, mais en même temps, les circuits de diffusion sont parfois restreints. C'était juste pour dire que ce schéma binaire gris-blanc n'était pas aussi satisfaisant que ça déjà en l'état quand on pense imprimer. Et c'est vrai que quand on passe au numérique, c'est plus du tout satisfaisant, ça ne correspond plus à rien. On est dans de la porosité totale entre, on arrive à reconnaître la littérature blanche parce que elle circule via l'imprimé, mais ce qui est diffusé de manière numérique, on a de plus en plus de mal à définir ce qui relève de la littérature blanche et ce qui relève de la littérature grise, même quand c'est labellisé dans des archives ouvertes, on le verra tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que en termes de diffusion, c'est le jeu qui diffuse maintenant beaucoup, hein, donc les chercheurs mettent en ligne leur propre production, soit sur leur site personnel, soit sur leur site de laboratoire, sur leur blog, etc., dans des archives ouvertes par un dépôt volontaire, donc il y a le jeu qui diffuse, donc ça crée de la confusion, et puis je dirais le lieu de production est en concurrence un petit peu avec le lieu de stockage. La production scientifique, on peut la trouver partout. Les URL permettent effectivement, avec différents outils, notamment les outils Web 2.0, hein, de disséminer très rapidement une production. Donc, on perd un petit peu le fil sur l'origine du document, sur son statut, etc. On voit émerger ce qu'on appelle une littérature verte. Je vais vous parler de couleurs, hein, ce matin, basée, hein, sur les mouvements du libre accès, qui, elle, bon, est accessible dans une certaine mesure, qui n'est pas commercialisée, et qui est plus ou moins largement diffusée. On pourrait le définir comme ça, mais je vais revenir dessus. Alors, libre accès, bon. Je vous propose de parcourir cette diapo ensemble, hein, parce que elle est assez explicite, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce qu'on entend par libre accès ? Je ne vais pas vous faire la généalogie de l'open access, hein, on n'est pas là pour ça, mais simplement quand même poser cette définition-là. Une mise à disposition gratuite sur l'internet public permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute fin légale, sans barrière financière, légale, technique ou autre que celle de l'accès et d'utilisation d'Internet. Bon, je m'arrête là, ça pose un jalon. À l'occasion de cette initiative que j'ai mentionnée ici, la initiative de Budapest pour l'accès ouvert, on a essayé de définir ce que c'était que ce libre accès, et il est apparu deux modèles à cette occasion-là. Donc, je vous donne en couleur ici, donc une littérature de type verte, comme je disais, donc un libre accès vert, basé sur un modèle de l'auto-archivage, où donc dans ce cas-là, c'est le chercheur individuel qui va aller déposer sa production dans une plateforme dédiée à l'accueil de ses productions, donc une archive ouverte. Sachant que cette production peut par ailleurs avoir été publiée dans un article normal, hein, enfin dans un article de revue. Donc ça, c'est le modèle de l'auto-archivage. Le deuxième modèle, dont vous parlera Rémi tout à l'heure, c'est le modèle de la création d'une revue totalement en libre accès, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je vais juste le signaler, puisque ça vous sera développé par la suite. Alors, pourquoi on est rentré dans dans ce mouvement-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que le web crée de la confusion, hein, sur la production, sur la diffusion, sur le statut de cette littérature, sur sa validation, etc. Donc, les différents acteurs sont quand même intéressés, à créer du formel, hein, derrière tout ça. Et créer du formel, ça donne lieu à la création de lieux, hein, comme les archives ouvertes, ou comme ces revues en libre accès, qui rendent, qui instaurent de la légitimité, hein, d'une certaine manière, dans ces modes de diffusion hybrides, poreux, confus, etc. Les perspectives, c'est quoi ? C'est effectivement se dire que, j'y reviendrai dans la diapo suivante, mais il y a quand même, l'édition scientifique en SHS est quand même un petit peu, à défaut d'être en faillite, au moins en déclin. L'idée derrière tout ça, en tout cas en sciences humaines et sociales, c'est aussi de se dire qu'on va élargir l'audience. Ça, c'est assez important. La deuxième idée derrière, c'est de se dire que on va créer de la communauté, on va créer de la mutualisation, on va décloisonner un petit peu, hein, parce que dans cette enquête du GFII dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une statistique que j'ai pas notée ici, mais qui est de l'ordre, il y a 1,34, je crois, revues en France. Par laboratoire ou par équipe de recherche, ce qui est absolument énorme. Voilà. Évidemment, l'arrivée de ces modèles alternatifs génère un certain nombre de questionnements, à la fois en termes de modèles économiques, en termes de visibilité, de diffusion et en termes d'évaluation et de validation, dont je n'ai pas la prétention de faire le tour ici, mais en tout cas, l'idée c'était de poser un petit peu ces questionnements pour jalonner cette journée de réflexion sur les conditions de production et de diffusion. Alors, un petit tour quand même du côté de l'édition scientifique. Alors là, vous avez sans doute remarqué que insensiblement, je suis passé du terme publication au terme édition. C'est pas anodin. C'est l'idée de se dire que la publication est une acception relativement large, hein, donc on peut mettre derrière publication scientifique un certain nombre de documents pas forcément labellisés en tant que tels, mais qui relèvent, qui ont en tout cas un contenu scientifique. Quand on parle d'édition, on est sur quelque chose d'un peu plus strict, des livres et des périodiques. Donc là, on est dans la littérature blanche, hein, l'idée de littérature blanche que j'ai évoquée au tout début. On est dans l'expression d'un travail de recherche original qui produit de la connaissance, qui produit du savoir au sein d'une discipline. Alors, cette notion d'édition suppose l'existence d'éditeurs effectivement, la fonction d'édition ou la fonction, en tout cas la position d'éditeur est également un peu mise à mal par le numérique. Hein. Ce qui est important, à avoir en tête maintenant, c'est que l'édition scientifique en France est ventilée de manière assez différente que l'édition en sciences dures, avec, je l'ai inscrit en gras ici, quasiment la moitié de la production qui relève des ouvrages. Hein. Une grosse production d'ouvrages, et notamment d'ouvrages collectifs, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout en sciences dures, par exemple, hein, où c'est la production d'articles de revues qui est davantage prisée. Donc c'était important, d'avoir ce jalon-là. On y reviendra cet après-midi avec Olivier, qui fera un exposé sur l'édition d'ouvrages. Mais effectivement, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était plutôt ça. Alors, l'édition scientifique traditionnelle en faillite, en tout cas en déclin, le rapport dont je vous ai parlé indique clairement une érosion depuis une vingtaine d'années, donc c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'accentue, avec une décroissance des tirages et une baisse des chiffres de vente. Qui nous amène, à penser que le modèle d'accès payant, en tout cas, devient, en tout cas, un vecteur, perd en tout cas son rôle de vecteur des connaissances scientifiques, des résultats de la recherche en sciences économiques et sociales. Et ce modèle d'accès payant est effectivement en France essentiellement focalisé sur l'imprimé. Hein. Le rapport signale également pas mal de faiblesses chez les éditeurs, donc parmi ces faiblesses, qui semble en tout cas importante, une faible ouverture sur l'international, y compris sur la dimension européenne, et puis un passage au numérique qui est largement centré sur le web 1.0, dans le sens où les sites des éditeurs se mettent à faire un peu vitrine, à présenter leur catalogue, mais on est loin, je dirais, de la valeur ajoutée que peuvent apporter certaines plateformes éditoriales dans les pays anglo-saxons, par exemple. Donc une appréhension assez limitée par les éditeurs français des enjeux du numérique. Voilà, avec une statistique qui m'a semblé importante à signaler ici. Fin 2008, 54% des revues de recherche en SHS en France, hein, on est toujours en France ici, ne disposent d'aucune présence sur Internet, ce qui est quand même pas mal. Je pense que vous en reparlerez tout à l'heure, notamment avec Annie, qui est responsable chez nous de la veille sur les revues françaises, et qui vous expliquera un petit peu comment elle part, ou comment elle part à la pêche des informations pour pouvoir signaler les sommaires. Là, disons que je balaye, hein, donc je balaye des tendances, je balaye des questionnements, et effectivement, la fin de la matinée, enfin la suite de la matinée va être consacrée à la production de revues, le début d'après-midi aux ouvrages, et ensuite on va attaquer les ressources documentaires dans l'après-midi. Donc si vous voulez, les points que je donne là, ce sont vraiment des points d'appui qui seront approfondis dans la journée au fur et à mesure. Hein. Comme je disais, c'est vrai que ce numérique introduit de la confusion. Donc, il y a une mobilisation pour essayer de créer du formel, hein, pour essayer de professionnaliser cette espèce de diffusion virale. Et parmi, je dirais, parmi les manifestations de ces tentatives de formalisation, on a la naissance de, enfin, la, en France en tout cas, des plateformes numériques de revues. Pareil, donc je vous les signale simplement, on vous les présentera un peu plus avant tout à l'heure. Donc on a essentiellement deux modèles, hein, en France de diffusion de revues. Donc le modèle Cairn, qui date de 2005, qui est un modèle payant, hein, donc c'est une offre payante sur abonnement, donc un financement, je dirais un financement par l'aval, mais qui s'inscrit dans une logique de mutualisation et de délégation. Par délégation, j'entends que les éditeurs qui n'ont pas fait la transition avec le numérique délèguent au collectif Cairn la mise en ligne. Hein. Donc techniquement, ils s'occupent de rien. C'était ça l'idée. Revue.org a un positionnement un peu différent. Revue.org déjà a une approche de type logiciel libre, est une initiative non marchande. Et ne s'appuie pas sur de la délégation. Hein. Il y a ici une démarche favorable à l'appropriation par les éditeurs. Hein. Donc, ce sont les éditeurs qui s'approprient, un outillage qui est mis à leur disposition par Revue.org pour mettre en ligne leurs propres revues. Je n'irai pas plus loin, hein. On vous parlera de ces outils un peu plus avant dans la matinée. Alors parmi les autres lieux numériques un peu formels de l'édition en sciences humaines et sociales, il y a les archives. Alors les archives, il faut distinguer deux choses. Les archives institutionnelles et les archives ouvertes. C'est pas du tout le même processus derrière. Une archive institutionnelle, c'est une archive d'institution, excusez-moi d'être un peu lourde. Concrètement, c'est une université, par exemple, hein, qui va s'installer un logiciel qui permet de gérer une archive, et qui va rassembler dans cette plateforme la production scientifique de son institution, avec souvent un double, je dirais, une double perspective. Une perspective, évidemment, de valorisation, hein, de valorisation de la production scientifique, mais aussi une perspective, je dirais, d'évaluation, hein, dans le sens où on peut, enfin, il y a cette tendance qui n'est pas encore complètement affirmée, mais en tout cas, elle grandit, on va le dire comme ça, d'obliger un petit peu les équipes de recherche à faire ce dépôt pour que les institutions disposent d'une, je dirais, d'une information assez exhaustive sur la production scientifique et construisent des indicateurs pour justifier de leur activité. Bon, donc ça, c'est une tendance. En termes d'archivage institutionnel, il y a un autre type d'archivage institutionnel, on peut dire, sans archives, j'ai mis. Pourquoi ? Parce que quand je parle d'archives institutionnelles, ça veut dire que derrière, vous avez un protocole, hein, vous avez un format, qui est un format qu'on appelle OAI-PMH, qui est le format de standardisation bibliographique, hein, du document, qui permet une interopérabilité, etc. Donc ces archives, quand on parle d'archives ouvertes ou d'archives institutionnelles, derrière on a un formalisme technique qui permet l'interopérabilité, hein. Donc ça, c'est important à comprendre. Quand je dis qu'il existe un archivage institutionnel sans archives, ça veut dire qu'effectivement on trouve ce qu'on peut appeler des bibliothèques numériques plus ou moins structurées, qui ne s'appuient pas sur ce format existant et qui donc ne permettent pas l'interopérabilité. Donc on a effectivement tout un tas de réseaux. On prend l'Institut d'éducation dont on a déjà parlé, par exemple, qui a énormément d'informations en ligne. Ces informations, il y a une base de données interrogeable sur leur site, mais elles ne communiquent pas avec des archives institutionnelles au sens standard. Hein. Voilà. Et donc, ces archives, je dirais, sans logiciel d'archives, oscillent entre un modèle de librairie, hein, dans le sens où on va vendre de l'information à l'unité, ou un modèle bibliothèque où on vend de l'accès aux adhérents. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Bon. J'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Les archives ouvertes. Alors, quand je dis il y a une différence importante entre archives institutionnelles et archives ouvertes, c'est quoi ? L'archive ouverte repose aussi sur un protocole, enfin sur une standardisation. Simplement, on est dans de l'auto-archivage dans ce cas-là. Et l'auto-archivage, c'est le chercheur individuel qui va décréter ou décider d'aller déposer son document, sa production scientifique dans une plateforme d'archives. Donc, et là, ça génère d'autres types de questionnements parce que on dépose certaines choses, on n'en dépose pas d'autres. On dépose des choses qui sont publiées, des choses qui ne le sont pas encore et qui ne le seront jamais. Enfin, il y a des problèmes d'exhaustivité, il y a des problèmes d'homogénéité. On a énormément de mal, en particulier dans les archives françaises, à évaluer, je dirais, à connaître la nature du document sur lequel on tombe. Donc, ça génère des problèmes. Le deuxième type de questionnement qui émerge de ces archives ouvertes, c'est la question de la barrière mobile. Ce qu'on appelle la barrière mobile, c'est le chercheur est autorisé à aller déposer, donc à rendre public, accessible de façon numérique, un document qu'il a publié, soit un chapitre de bouquin, soit une revue. Donc cette question-là n'est pas résolue, elle est négociable éditeur par éditeur, voilà. Et je dirais même livre par livre ou revue par revue, les choses sont pas du tout stabilisées. Est-ce que ces lieux numériques que sont les archives vont être ou sont des vecteurs de transformation du paysage éditorial? Oui, on peut l'imaginer. Quelle est leur incidence? On a énormément de mal à mesurer ça aujourd'hui. L'idée, c'est que on a un potentiel de dissémination derrière ces archives ouvertes qui est important. Simplement, on arrive à une offre extrêmement fragmentée. Donc on a on a des archives à l'intérieur des universités, on a des archives thématiques, on a des archives nationales, il y a des archives un peu partout, on s'y retrouve plus. Je dirais là, il y a un potentiel de dissémination si on a des outils au-dessus, hein, qui permettent de rendre visible cette production qui est par ailleurs fragmentée. Donc il y a toute une réflexion à mener sur les moteurs et les métamoteurs, évidemment. Bon, c'était un petit peu l'idée que je voulais développer ici. Je vais terminer avec plutôt des questionnements, et des questionnements en termes de validation, notamment. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on avait un modèle qu'on maîtrisait à peu près, notamment, je dirais, la validation par comité de lecture. Avec le web, tout ça éclate également. On est dans le jeu qui diffuse, hein, comme je vous disais au début. Donc c'est l'utilisateur qui va se construire d'une certaine manière son identité numérique, hein, qui va faire en sorte que sa production va être disséminée de manière virale en la posant dans les bons endroits. Donc c'est aussi un job, hein, d'apprendre à se construire cette identité numérique, et donc à se construire une espèce d'autorité dynamique, hein, avec le réseau, qui peut être usurpé ou qui ne peut ne pas être usurpé, hein, mais bon, en tout cas ce sont, je dirais, des éléments qui remettent en question clairement le modèle comité de lecture et facteur d'impact dont que je ne vais pas expliquer ici, mais dont je pense qu'Olivier reviendra dessus au niveau des revues dans la matinée. Donc ça pose des questions, effectivement, en termes de statut du document, je vous l'ai dit. Est-ce que le document a été publié ou pas? Est-ce qu'il est auto-publié? Ça pose une question aussi trivialement technique, hein, la pérennité des URL. On sait très bien que les sites de chercheurs ou les pages de chercheurs ou même les pages de labos, c'est des choses qui ont une durée de vie parfois assez courte. Donc on est aussi dans ces questions-là, avec, je dirais, une entreprise par exemple de type DOI, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Digital Object Identifier, c'est une approche qui, c'est de la métadonnée, hein, c'est de la métadonnée d'URL, c'est-à-dire c'est l'idée d'avoir une URL fixe, de construire une URL fixe pour accéder à un article de revue ou à un ouvrage, puisque les DOI maintenant concernent aussi des ouvrages en ligne. Voilà, et c'est un consortium international qui se charge de gérer l'attribution des DOI. Bon, j'irai pas plus loin sur la question, et évidemment ça pose aussi un certain nombre de questionnements en termes de dissémination, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, en termes de référencement, il suffit pas de mettre, il y a Google, c'est pratique Google, donc on peut mettre son article sur son site personnel, mais en termes de dissémination, il faut aussi une réflexion en termes de métadonnées et de référencement. Voilà. J'ai terminé. Je vais quand même. Pour reprendre mes couleurs de tout à l'heure, érosion de la littérature blanche imprimée. Donc ça, ça me semblait assez évident. Je pense que je vous ai pas appris grand chose. Hybridation littérature blanche, littérature grise liée à la diffusion numérique. Donc hybridation, porosité. Et puis des modèles de littérature verte ou dorée en émergence. Très instable pour l'instant. Parmi les scénarios, je dirais, pour créer du sens derrière tout ça ou pour remettre de la validation, il y a l'idée du label de qualité. Je pense que ça aussi, ça reviendra clairement dans la matinée. Comment on construit de la qualité? Comment on évalue l'article sur lequel on va tomber quelque part sur le web? On remonte à son origine. On s'intéresse au nom de l'éditeur, à l'entité de l'équipe de recherche. C'est sûr que si on a un article publié par l'IREDU, il n'aura peut-être pas le même poids qu'un article publié par une autre équipe de recherche. C'est un exemple, hein, que je vous donne. Mais là, on a un effet label qui va peut-être se renforcer, me semble-t-il. Les collections d'ouvrages, je pense qu'Olivier reviendra aussi dessus l'après-midi. Avec une collection d'ouvrages, on crée de la validation, on crée de la qualité, d'une certaine manière. Et puis, la dernière idée, je dirais, c'est... en termes de modèle économique, c'est une transition vers un financement par l'amont. C'est-à-dire que dans ces modèles de littérature verte, ce qui émerge, c'est le développement du financement par projet, avec inclus dans le financement de départ le processus de diffusion en libre accès. Voilà.